réplique, Pierre Nora, la mémoire et l'histoire, avec Régis Debray. Pierre Nora est mort le 2 juin dernier. Il avait 93 ans. Éditeur, Nora a incarné la belle époque des sciences humaines. Historien, il a dirigé les lieux de mémoire, œuvre monumentale en 7 volumes. Fondateur et directeur de la revue Le Débat, il a été au cœur de la vie intellectuelle française. Mais pour vous, Régis Debray, il a été aussi un ami cher. Alors je voudrais commencer par là, car ce lien ne va pas de soi. Régis Debray et Pierre Nora, ce sont a priori deux mondes, deux sensibilités, deux parcours différents, sinon divergents. Comment est née votre amitié ? Quelle est sa scène primitive, Régis Debray?
La scène primitive, ce fut une engueulade. Il m'a traité d'intellectuel, ce qui est tout de même un peu dur. Je l'ai traité de croque-mort.
Ah ben c'est bien.
Tout ça était, comme vous dites, comme on peut dire, un excellent début. Pour lui, j'étais un enfant amer et hargneux. Et pour moi, il était une sorte de patricien... une sorte de va-t-en-guerre déguisé en pacifique. Bref, tout ça n'a eu qu'un temps, tout ça n'a eu que quelques, disons, une heure. Et après, nous sommes allés déjeuner, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Voilà, donc on ne s'est pas quittés à peu près pendant 50 ans.
Alors, écoutez, cette scène primitive, justement, est racontée par Pierre Nora dans son livre « Une étrange obstination ». Le débat démarre. Nous sommes donc en 1980. Et Jean Daniel appelle Nora pour discuter du lancement. Jean Daniel lui dit, ça s'appelle le débat, avec qui voudrais-tu débattre? Et Nora répond, Régis Debray. C'est Jean-Paul Endoven qui a été chargé d'organiser la rencontre. Mais la rencontre au début n'a pas eu lieu, parce que vous n'avez pas voulu, Régis Debray, c'est du moins le souvenir qu'en a Pierre Nora, vous n'avez pas voulu lui serrer la main. Il y a eu un échange épistolaire, vous avez répondu aux questions de Jean-Paul Endoven, et alors c'était ce que chacun représente pour l'autre.
Oui, on s'est échangé ce qu'on appelle des noms d'oiseaux,
voilà.
N'est-ce pas?
Vous le voyez en patricien subtil et désabusé, téléguidant le trafic des bons travaux de pointe, le metteur en scène de l'establishment intellectuel d'aujourd'hui. Et Nora avoue qu'il était encore plus méchant, il vous désignait comme l'enfant chéri des années folles marxo-gauchistes, devenu l'enfant amer et hargneux de la gauche en crise, un homme qui se cambre dans la gauche avec une morale de droite. Moyennant quoi vous décidez de vous rencontrer parce que c'était très long, donc il faut couper. Et vous déjeunez, et le déjeuner a duré jusqu'à 5 heures de l'après-midi, et nous a laissé si proches que l'entretien n'a jamais paru. Voilà, dit-il. Ça, c'est 1980, et en effet, c'est la scène primitive, et le déjeuner, voilà. Et c'est de ce déjeuner qu'est née une amitié qui a donc duré plus de 40 ans.
Régis Debray. Oui, écoutez, pendant ce déjeuner, on est tombé d'accord sur deux choses. Un, que les dinosaures sont les seuls gens fréquentables aujourd'hui. Et deux, que nous sommes minoritaires et que nous devons le rester. Nous sommes des has-been, tous les deux, lui, beaucoup moins que moi, bien qu'un peu plus vieux. Et donc, sur cette base-là, tout était possible. Mais Pierre avait cette singularité que c'était à la fois un esprit pointu et un homme de cœur. C'est-à-dire qu'il avait un don à la fois d'acuité dans la vie intellectuelle et de générosité dans la vie, je dirais, spontanée, personnelle. Et donc, ce qui permet d'avoir des divergences, mais d'en être pas victime, si vous voulez, et de garder un fond commun. Lui s'appelant un marginal central, ce qui me semble tout de même un peu exagéré pour le central, pour le marginal en
oui,
tout cas,
marginal, oui,
oui. C'est exagéré pour le marginal, parce qu'il a tout de même fini à l'Académie française.
Alors, il y a pire comme destin.
Il y a pire comme destin, disons le mien, un marginal, ça a beaucoup d'avantages. D'abord, il est beaucoup plus tranquille, il perd moins de temps, et il peut se consacrer à son propre travail. Donc, laissons ça de côté, mais en tout cas, ça a toujours été, pour moi, un interlocuteur précieux, d'autant que vous savez que les intellectuels se détestent les uns les autres, et lui avait cette, cette bonté, cette ouverture qui est assez rare dans notre milieu.
Oui, bien sûr. Alors, Nora ajoute aussi que une partie de votre entretien est parue dans le débat quand même, et vous disiez plutôt, nos navires respectifs ayant coulé, nous nous retrouvons sur le même bateau, ou sur le même radeau plutôt. Et Nora vous répond que nous nous retrouvons bien sur le même radeau, mais nos deux naufrages n'ont pas été les mêmes. Le tien est historico-politique, le mien relève de la culture et de la civilisation. Mais le vôtre aussi est finalement Régis Debray. C'est ce que vous venez de dire. Mais justement, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur la question de la divergence. Donc, on comprend que les divergences politiques n'étaient plus ce qu'elles étaient en 1980. Mais d'un autre côté, jusqu'à quel point, c'est ma question, l'amitié peut-elle survivre à la divergence? Et là, je voudrais citer Kundera, dans Une rencontre, parce que ça me donne à réfléchir, et je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit, à l'heure du bilan, la plaie la plus douloureuse est celle des amitiés cassées, et rien n'est plus bête que de sacrifier une amitié à la politique. Je suis fier de n'avoir jamais fait, et il ajoute, j'ai admiré Mitterrand pour la fidélité qu'il a su garder à ses vieux amis, c'est à cause de cette fidélité qu'il a été si violemment attaqué vers la fin de sa vie, c'est cette fidélité qui était sa noblesse. Il dit, il faut une grande maturité pour comprendre que l'opinion que nous défendons n'est que notre hypothèse préférée, nécessairement imparfaite, probablement transitoire, que seuls les très bornés peuvent faire passer pour une certitude ou une vérité. C'est très beau, mais d'un autre côté, Mitterrand, cette amitié qu'il a gardée, c'était quand même Bousquet. Et Bousquet, c'est pas une opinion. Bousquet, c'est Vichy. Bousquet, c'est la rafle du Veldiv. Et puis d'autre part, c'est-à-dire notre hypothèse préférée, oui, mais une opinion, ça n'existe pas, c'est une conviction. On est affecté par des choses. On est affecté, on a du chagrin, on a de la colère. La divergence peut nourrir, justement, l'amitié. Mais d'un autre côté, on ne peut pas mettre tout entre parenthèses en disant tout ça est relatif, tout ça est transitoire, parce que à ce moment-là, l'amitié deviendrait acosmique. De quoi parlerait-on? Alors comment fait-on, comment faites-vous, justement, pour vous accommoder de tout ça, Régis Debray?
Eh bien, d'abord, je crois que pendant la résistance, on aurait été du même côté. Mais ça, c'est évident. Je crois que notre divergence était liée, je dirais, ne le prenez pas trop politiquement, mais il était démocrate, moi j'étais républicain. Bon, un républicain, c'est un monsieur qui a deux repères, c'est l'instit et le troufion. C'est-à-dire, ça suppose un État, et ça a son négatif, bien sûr. C'est la condition féminine et la condition coloniale. Bon. Quant à la démocratie, pour moi, c'est deux choses. C'est le businessman et le journaliste. C'est-à-dire, c'est à la fois faire de l'argent, ce qui est très bien, ça fait vivre beaucoup de monde, et puis gérer l'opinion. Bon, pour moi, il y a un régime d'opinion et un régime d'argent d'un côté. Je précise tout de suite que la République, pour moi, est passée. C'est-à-dire qu'il serait vain de courir après. Ce que Pierre avait compris, Mais il était tolérant, je vous l'ai dit. Donc il supportait le côté un peu vieux jeu du républicain, si tu veux. Et parce qu'il était sans doute plus âgé que moi, mais en fait j'étais beaucoup plus âgé. Parce que j'avais, disons, des idéaux tout à fait rétro. Voilà.
Je me souviens d'ailleurs de cet échange que j'ai eu dans le Nouvel Observateur de la Grande Époque. Vous avez fait un très grand article sur démocrates et républicains, auquel c'est Jacques Julliard qui vous a répondu. Et c'est un échange de très haute tenue, en effet. Mais n'y avait-il pas autre chose? Y avait-il, par exemple, des sujets que vous évitiez avec Pierre Nora? Est-ce que, sur la question...
Je vois où vous voulez en venir.
Bon, allez, c'est des sujets que vous allez éviter avec moi.
La question israélienne, d'accord.
Je vous demande, est-ce que ça vous mettiez ça de côté pour qu'il n'y ait pas trop de heurts?
On mettait ça de côté d'un commun accord, et puis, parce que, au fond, c'était pas une divergence essentielle. Et puis, je dirais que son judaïsme était très retenu, disons, discret. Et nuancé, et que mon anti-judaïsme était aussi très, très nuancé. Donc je pense qu'il n'y avait pas de divergence fondamentale. On en parlait très peu, à vrai dire.
Oui, oui. Donc vous laissiez quand même ça de côté.
Oui, parce que c'était non seulement, je dirais, de la pudeur ou de la politesse, mais c'est qu'aussi, je dirais, comment on dit ça? Ça n'a jamais perturbé notre relation. Voilà.
Bon. Très bien.
Peut-être parce qu'il n'était pas sectaire, je l'ai été, mais je ne le suis plus du tout.
C'est un bon scoop, non, comme on dit à l'Académie française. Régis Debray n'est pas sectaire. Génial. Mais j'ai toujours su, c'est vrai. Mais vous avez aussi évité ce même sujet avec moi, Régis Debray.
Oui, nous avons un commun accord décidé, ou plutôt senti, qu'il était bon de s'abstraire de ces discussions qui sont en plus un peu vaines, répétitives et surtout dépendantes de la conjoncture.
Oui.
Et nous ne sommes pas, vous et moi, des journalistes accrochés aux événements du jour.
Non. On peut être affecté par les événements du jour, mais on n'est pas, en effet, accroché.
On n'est pas prisonnier.
Pas prisonnier, en effet. Donc, vous dites opposition démocrate-républicain. Et là, j'en reviens, justement, à la naissance du débat. C'est très intéressant. Donc, 15 avril 1981, le débat paraît le jour même de la mort de Sartre. Extraordinaire, d'autant que l'éditorial du débat, c'était une réponse à l'éditorial de Sartre pour le premier numéro des temps modernes. Et le choix du titre, le choix du nom, le débat, évidemment, c'était une manière de répondre à une vie intellectuelle qui s'était placée sous le paradigme du combat, c'est-à-dire le renversement de la formule de Clausewitz, la politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. Et tout d'un coup, non, ce n'est plus l'heure du combat, c'est l'heure du débat. Et dans un texte liminaire qui a fait beaucoup jaser, Pierre Nora, Que peuvent les intellectuels, salue l'avènement de ce qu'il appelle justement, et j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, l'intellectuel démocratique. L'intellectuel démocratique en réponse à ce qu'était l'intellectuel critique et hypercritique. Qu'avez-vous pensé, justement, de cette revue, de ce moment? Vous êtes-vous senti visé? Ou au contraire, comme Foucault, par exemple, qui a été très fâché avec Nora à cause de ça, ou... Pensez-vous que c'était en effet une nouvelle époque heureuse qui commençait dans la vie intellectuelle, Régis Debray? Il n'y en a eu d'autres, j'imagine.
Vous dites bien une nouvelle époque. Je pense qu'il y a une différence de temps, si vous voulez. Sartre, c'est encore 45, les années 50, alors que Pierre était, je dirais pas qu'il collait à son temps, mais c'était un homme de son temps. Alors c'est vrai qu'il avait trois présupposés. D'abord, le refus de la spécialisation universitaire extrême. Deuxièmement, face à la dégradation marchande de la société, il avait tout de même la volonté de ne pas en être. Et puis, il était tout de même, et là on se rejoignait, si j'ose dire, il l'a dit lui-même, partisan de la fonction publique, si vous voulez, c'est-à-dire contre, au fond, la domination de l'argent, la domination du court terme, enfin, un certain cynisme, si vous voulez, de la société démocratique. Mais je crois qu'il a effectivement tourné la page d'une époque, c'est-à-dire d'une époque qui ne débattait pas, mais qui combattait, comme vous l'avez dit. Et donc, disons, peut-être que quand il lance sa revue en 1980, la lutte de classe est très adoucie, le tiers-monde a quasiment disparu, et le communisme n'est plus très attirant. Donc je pense que c'est une bonne synthèse, mais on peut aussi on parle de la naissance du débat, on pourrait parler de la fin aussi.
Oui, on en parlera. Hein? Bien sûr, on en parlera.
Donc
ça c'est très important.
Je crois que peut-être nous avions pas le même passé, mais que dans le présent on se retrouvait.
Ah oui, donc vous vous retrouviez dans le présent. Vous n'étiez donc pas gêné par cette affirmation que l'heure était venue de l'intellectuel démocratique.
Oui, alors j'en avais peut-être la nostalgie. J'en avais peut-être la nostalgie de l'intellectuel qui fut révolutionnaire et qui ensuite devient républicain. J'ai peut-être eu du mal à me faire à la démocratie, si vous voulez. Là, je donne des bâtons pour me faire battre. Mais enfin, j'ai eu du mal à avoir pas cette tolérance, mais disons une certaine acceptation d'une société concurrentielle, d'une société à la limite un peu opportuniste, puisque calant à la conjoncture. Enfin bref, je m'y suis fait, à
oui,
cette démocratie.
Vous êtes fait à cette démocratie, mais là je voudrais quand même un peu réhabiliter ce terme, même si, comme vous, et après vous, je me sens républicain. C'est-à-dire orphelin de la République.
Et voilà une bonne nouvelle.
Bah, vous ne le saviez pas. Faut me lire, Régis Debray, faut me lire.
Que vous étiez orphelin, je le savais, mais que vous aviez encore la République au cœur, c'est merveilleux, je vous croyais démocrate.
Écoutez, je suis d'abord péguiste, et rien ne m'émeut davantage que les hussards noirs de la République. D'accord. Mais il y a aussi autre chose dans la démocratie que vous semblez sous-estimer. Et là, je vous citerai Albert Camus. J'ai toujours été plus camusien que sartrien, c'est vrai. Mais il disait ceci très tôt. Le démocrate est modeste, il avoue une certaine part d'ignorance, il reconnaît le caractère en partie aventureux de son effort et que tout ne lui est pas donné. Et à partir de cet aveu, il reconnaît qu'il a besoin de consulter les autres, de compléter ce qu'il sait par ce qu'ils savent. Et ça, c'est une belle définition.
C'est une très belle définition.
Et ça pouvait effectivement présider au lancement d'une revue aussi, et au rapport qui devrait régner entre intellectuels. Régis Debray.
D'abord, vous savez que les intellectuels ne s'aiment pas.
Oui, ça c'est vrai. Rousseau l'a très bien dit d'ailleurs,
oui.
Sur les gens de lettres et les dévorés par l'amour propre.
Voilà. C'est donc, on laisse de côté ce panier de crabe, si vous voulez. Et je trouve que la définition de Camus est très belle, mais il a tout de même été absent des luttes de son temps, tout de même, à part en Algérie, il a eu des positions très prudentes. Mais je pense que Camus, d'abord, est un grand écrivain, ensuite que c'est un homme très honnête.
Voilà.
Ce que Sartre n'était
pas
toujours...
Tout à fait.
Non, parce que Sartre avait parfois de la mauvaise foi, comme on en a dans un combat, si vous voulez. Et non, je pense... Je suis peut-être très fâché ou critique de l'actuelle disparition de Jean-Paul Sartre, qui est par rapport à Camus très en bas, Camus ayant monté après sa mort, ça, dans l'esprit public. Mais... je crois qu'on rétablira l'équilibre à un moment donné. D'abord parce que Sartre reste un grand philosophe et que, à sa manière, il avait beaucoup de générosité. Voilà.
Oui, c'est vrai. Et je relis parfois des passages de L'être et le néant avec beaucoup d'admiration. L'idiot de la famille est un livre qui m'a agacé parce que de la position de surplomb sur Flaubert, dont il va chercher la névrose. Il ne va pas chercher la névrose de Hegel ou de Kant. Or, Flaubert est un explorateur de l'existence au même titre que les philosophes. Mais il y a des analyses absolument géniales dans L'idiot de la famille. Alors, vous dites que Camus est au firmament, que Sartre est aux enfers. Mais il y a aussi autre chose qui me frappe aujourd'hui, c'est que Simone de Beauvoir connaît un regain de faveur avec le néo-féminisme, le deuxième sexe, au détriment de Sartre, alors qu'on se moquait d'elle, la grande sartreuse, etc. Donc c'est une étrange revanche posthume, mais ça tient aussi à l'esprit de l'époque, Régis Debray.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le féminisme du temps de Sartre n'existait pas, alors que Simone de Beauvoir l'a porté. Disons que Simone de Beauvoir a rattrapé son temps. Je pense que le deuxième sexe, au début, a été une sorte de petit tremblement de terre, mais très petit. Et ensuite, le mouvement a grandi, même internationalement, puisque oui. Simone de Beauvoir est aujourd'hui autant américaine que française, si vous voulez. Bon, voilà, on a chacun... On ne va pas faire le récit de notre vie, mais il est vrai que, pour moi, les rapports avec Sartre étaient faciles, les rapports avec Simone de Beauvoir, elle était un peu raide, si vous voulez, un peu verticale, et curieusement, il y avait une générosité, une bonhomie chez Sartre,
ah oui.
beaucoup plus grande, oui, oui.
Ah
Sartre
oui.
était capable de se moquer de lui-même, Sartre était capable... d'aller au cinéma, par exemple. Sartre était...
Ah, il aimait beaucoup le cinéma, d'ailleurs. Sartre... Il le dit dans les mots.
Sartre pouvait être drôle. Je n'ai jamais entendu Simone, avoir des traits d'esprit. Bon, mais enfin, tout ça est très contingent. Voilà.
Tout ça est très contingent et il ne faut pas aller trop loin dans la critique de Simone de Beauvoir.
Vous seriez très mal vu.
Ben oui, moi je tiens à préserver l'émission réplique.
Question de réputation. Hein,
voilà. Oui, mais alors revenons-en ouais. à Pierre Nora, le début tonitruant du débat, un nouveau climat dans la vie intellectuelle, dit-il, du choc antitotalitaire. Le climat n'est plus le même aujourd'hui, ça s'est à nouveau durci, les listes noires ont fait leur réapparition avec le livre de Daniel Lindenberg, le rappel à l'ordre, enquête sur le nouveau réactionnaire, il y a vraiment une liste, dans laquelle d'ailleurs Pierre Nora figurait, ainsi que Jacques Julliard, que Pierre Manant, que Marcel Gauchet, que Michel Houellebecq, et Emma Pomme. Et bon, il y a la cancel culture, etc., des mouvements sur le campus, mais ce n'est sans doute pas la seule raison pour laquelle le débat s'est arrêté. Le débat s'arrête au bout de 40 ans, en 2020, le débat se saborde. Pierre Nora peut dire, bon voilà, il est temps pour moi de passer la main. Marcel Gauchet refuse de faire la revue toute seule. Il n'avait pas prévu, ni l'un ni l'autre, de successeur. Que pensez-vous, que signifie... à votre avis, Régis Debray, la fin de cette aventure, d'autant plus qu'en 80, c'était encore une sorte d'âge d'or des revues. Commentaires venaient de naître, Esprit était une revue très active. Aujourd'hui, Commentaires continue, mais l'âge des revues semble passer, Régis oui. Debray.
Effectivement, alors, première protestation... ou premier regret de Nora, d'abord la disparition des idées générales, comme il disait, c'est-à-dire la montée des spécialisations, donc la montée des égoïsmes professionnels, et il n'y a plus, si vous voulez, de vue de surplomb. Deuxième chose, c'est que il a compris que c'en était fini de l'intellectuel, si vous voulez, c'est-à-dire que il fallait laisser la place aux journalistes, tout simplement. C'est-à-dire que l'intellectuel ne répondait plus à une demande sociale et qu'il y avait effectivement une histoire qui était en train de finir. Alors, peut-être peut-on parler de l'américanisation de la France, peut-être peut-on parler d'une fatigue intellectuelle et politique dans l'intelligentsia. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il a bien fait de finir. Il a compris que son temps était passé, mais c'est le nôtre. Et donc, nous n'avons plus, grand-chose à faire, finalement, mon cher Alain. Enfin, vous, vous avez beaucoup à faire,
mais non,
puisque vous avez cette émission, mais les autres sont mis de côté, précisément. Ils se sentaient, si vous voulez, anachroniques.
Anachronique,
Pierre. Oui. Il se sentait que le temps lui échappait, en quelque sorte, et qu'il y avait une sorte de présomption, de prétention, d'ambition qui était la sienne et qui ne répondait plus à un besoin. D'où, il faut le dire, la baisse de tirage,
oui,
la rétraction, si vous voulez, du débat.
Oui, alors, en même temps, en lisant Une étrange obsession, j'ai appris que le débat, comment dire, n'a jamais dépassé les 4 à 5 000 exemplaires, ce qui m'a beaucoup surpris, parce que je pensais que c'est une revue, comme je l'ai dit en introduction, au cœur de la vie intellectuelle. 4 à 5 000, c'était pas beaucoup, mais, dit-il aussi, les pratiques de lecture ont beaucoup changé.
Et on va aux articles spécialisés.
On va aux articles, voilà.
On ne lit plus la revue
dans son ensemble. Dans son ensemble.
Parce que le général a disparu devant le particulier.
Voilà. Le général. Et alors, vous dites, c'est aussi l'intellectuel a disparu au profit du journaliste. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, Régis Debray, parce que la vie intellectuelle aussi a pris un tournant. Nora, c'était en effet l'âge d'or des sciences humaines. Il y avait Dumézil, il y avait Foucault, il y avait Georges Duby, il y avait Jacques Le Goff. Enfin, c'était absolument prodigieux. Mais que s'est-il passé quand même? La sociologie est devenue, pour l'essentiel, critique de la domination et non plus tant analyse du fonctionnement des sociétés. Critique de la domination, on sait ce que ça veut dire, on connaît le résultat à l'avance. Et d'ailleurs, ça veut dire, c'est aussi une manière pour les sciences humaines de se séparer des humanités, parce que la domination, c'est ce qu'on disait en Amérique, les dead white European males, les mâles européens morts et blancs. Donc, c'est une mise en examen généralisée de la culture qui se trouve, et une recherche des discriminations, du sexisme, du racisme, de l'homophobie, dont les œuvres, de tous les stéréotypes dont les œuvres sont pleines. Donc, tout cela, quand même, ce retournement des sciences humaines contre les humanités, est pour beaucoup, me semble-t-il, l'assèchement intellectuel d'aujourd'hui, parce que les sciences humaines, selon Pierre Nora, prenait racine dans les humanités, et il dit ceci, on ne dira jamais assez quel ferment ont représenté pour toutes les formes de créativité intellectuelle et scientifique ces disciplines apparemment inutiles, la littérature, l'histoire, le latin, le grec. Voilà. C'est cette époque, en quelque sorte, dont il constate, peut-être à tort, peut-être trop vite, la disparition. Régis Debray.
C'est évident que le latin grec, qui était de mon temps une obligation, est devenu aujourd'hui, désigne un retard intellectuel. Mais je dirais, si vous voulez, je serais peut-être plus historique, c'est-à-dire que nous avons vécu le moment où il y avait une présence du passé. Et c'était le temps, si vous voulez, autant de Chateaubriand que de Proust. Après est venue une présence de l'avenir dans le présent, c'est-à-dire le temps du progressisme, le temps du communisme, dont les figures peuvent être aussi bien Jaurès que d'autres. Et puis il y a aujourd'hui une troisième phase dans laquelle nous sommes, c'est qu'il n'y a plus que le présent qui est dans le présent. C'est-à-dire qu'au début, vous avez des hommes de lettres, des littérateurs, qui aiment être en arrière de leur temps. Ensuite, vous avez des idéologues, c'est ceux qui voient l'avenir dans le présent. Et aujourd'hui, c'est le journaliste, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il ne voit que le présent dans le présent. Alors, il est vrai que je crois que la période de l'engagement, elle est terminée, d'abord parce qu'il n'y a plus de parti, premièrement. Deuxièmement, parce que les luttes politiques sont devenues d'une telle bassesse, ou, je veux dire, ce sont des anecdotes qui ne nous intéressent plus. Donc, effectivement, il faut se résoudre, mon cher Alain, à rester chez soi.
Écoutez.
Et à lire qui Chateaubriand, qui Marcel Proust. Voilà, c'est pas très optimiste, mais au fond, il reste peut-être que la France est en train de disparaître, mais le français, non. Le français se maintient. Donc il y a, si vous voulez, une solution malheureusement individuelle, mais qui peut devenir collective après coup, c'est tout simplement la défense de notre culture et de notre langue.
Voilà. Bon, bah, très bien. Ça me permet d'aborder la dernière partie de notre discussion. Alors, les journalistes, d'abord, qui ne regarderaient que le présent, je n'en suis pas sûr, parce que tout le monde aime parler aujourd'hui d'un retour des années 30, les années les plus sombres de notre histoire. Donc, on est obsédé par un passé, sans voir que, comme disait Valérie, si chère à votre cœur, le présent... que le présent, c'est ce qui ne s'est jamais présenté jusque-là. Oui, donc voir le présent dans sa présence même, c'est un exercice difficile auquel beaucoup de journalistes, par les stéréotypes venus de ce qui pourrait être le passé, se dérobent.
Donc, c'est en fonction du présent qu'on parle du passé.
Oui, bien sûr, ça c'est vrai. Mais sans voir peut-être justement le caractère inédit de ce présent. Alors simplement, oui, maintenant venons-en... à ce que nous sommes et à ce qu'il nous reste à faire. Et je partirai des lieux de mémoire. Les lieux de mémoire, l'ouvrage monumental de Pierre Nora. Dans l'introduction d'un des volumes, Pierre Nora dit « Le sentiment national a changé. De sacrificiel, funèbre et défensif, il s'est fait jouissif, curieux et, dirait-on, touristique. » Ce mot m'avait choqué, je le dis à Pierre Nora, qui évidemment n'était pas content de ma critique. Nous, les intellectuels, on n'aime pas qu'on nous critique. Et c'était une critique très affectueuse au demeurant. Mais et c'est intéressant parce que, justement, c'est une vision un peu patrimoniale de l'histoire. On examine notre histoire de manière, justement, dit-il, touristique. On regarde ce qu'ont été les lieux, les monuments, etc. Est-ce que... ça définit bien ce qu'est devenu aujourd'hui le sentiment national, selon vous, Régis Debray.
Oui, je crois que les trois volumes de Pierre sont conclusifs. C'est-à-dire que la France est quelque chose de passé. Je dirais que c'est l'État qui a fait la France, c'est l'État qui était l'outil du bien commun... Et quand l'État se défait, la France se défait. Donc, on peut faire un bilan, si vous voulez. On peut faire une sorte de synthèse rétrospective. Bon, enfin, il est vrai qu'on peut dire que l'être ensemble a vécu et que, je dirais, pour être un peu pompeux, je dirais que cette France dont Pierre parle, c'est celle... que Renan roulait dans le linceul de pourpre, celui des dieux morts. Et je pense que effectivement, il y a quelque chose de profondément nostalgique, mais je dirais de récapitulatif aussi. Je pense que Pierre a fait, si vous voulez, la synthèse définitive de ce que fut la France. Alors, il ne s'est pas lancé dans un diagnostic de ce qu'elle est devenue. Mais l'essence de son travail a été vraiment de léguer aux Français la conscience et la connaissance de leur passé.
Voilà. Bien sûr.
Étant entendu que ce passé, bien sûr, n'est pas totalement passé, qu'il nous informe, qu'il nous concerne encore. Mais c'est plus une mémoire morte qu'une mémoire vive, si vous voulez. La mémoire vive, elle est locale. Elle est dans cette mémoire familiale, personnelle. Elle est dans ce que nous avons vécu. Elle est quasi familiale. Mais je dirais que l'histoire, au sens à la fois synthétique et global, fait partie d'une mémoire morte. Je pense que c'est lui-même qui a fait la distinction entre les deux sortes de mémoire. qui est assez étrange, parce que ça veut dire que pratiquement que le passé est peut-être plus vivant que l'actuel, en tout cas plus intéressant, plus profond. Et donc, oui, je vois, si vous voulez, que le déclin de l'État, qui est en voie de disparition, est le déclin d'une certaine France. Et que nous sommes aujourd'hui, comme disait l'autre, entre le supranational et l'infranational, c'est-à-dire, pour aller vite, entre l'Europe et la province.
Bon. On ne dit plus province, d'ailleurs.
Oui, mais je maintiens le mot,
oui, moi aussi,
archaïque.
Mais bien sûr.
En gros, et moi donc. Alors, disons, entre le général et le local, si vous voulez. Et, mais qu'il manque le national, entre les deux, qui est un peu, aujourd'hui, un peu ringard. Alors, il y a évidemment deux formes, qui est le national rétrospectif du Puy du Fou, et puis le national, si vous voulez, de la Commune de Paris, puisqu'il y a encore des gens qui vont s'incliner au cimetière. Il y a peut-être deux Frances dans la mémoire, mais la France que nous avons connue, on en a connu peut-être les soubresauts ou les élans de la fin, mais je pense que Pierre a fait, si vous voulez, le certificat de décès.
Alors justement, je vais... Je suis très sensible à ce que vous dites, Régis Debray, mais je veux vous expliquer pourquoi le terme de touristique me gêne.
Ah ben, bien sûr, parce que le tourisme, c'est, si vous voulez, la victoire de l'espace sur le temps. C'est-à-dire que on se déplace dans l'étendue, mais on ne fait plus retrait, on n'a plus cette sorte de perspective temporelle. Donc, nous sommes... Alors, ça, je dirais que c'est l'américanisation de la France, parce que les États-Unis sont le pays de l'espace. Et la France était le pays du temps. Et malheureusement, c'est l'espace qui est aujourd'hui notre culture, dont le tourisme.
Dans le tourisme. Mais, non, j'ai une autre, peut-être, raison de tiquer devant ce terme. Et vous dites, la langue française, heureusement, est là. Et moi, je me demande si c'est vrai. Et à cet égard, je voudrais vous lire les premières pages du livre de Robert Redeker, L'école fantôme. Quelque chose a disparu de notre paysage auditif.
Bien sûr, bien sûr.
Un ersatz est venu remplacer cet absent. Quelle chose, quel ersatz, la langue française. Ce n'est plus la langue française que nous entendons, ce n'est plus elle que nous lisons. La langue française ne répond plus à l'appel de son nom. Il y a eu usurpation d'identité, une autre langue se fait passer pour elle. Rien n'écorche autant les oreilles que d'écouter chaque matin la radio, qu'elle soit publique, commerciale ou associative. Alors j'espère que Réplique et notre conversation avec Régis Debray échappent à cette critique, mais je la trouve très intéressante parce que c'est comme ça, moi, que j'ai découvert mon propre patriotisme, patriotisme de compassion. Pour reprendre la magnifique formule de Simone Veil, une tendresse poignante pour une chose belle, fragile, précieuse et périssable. C'est un héritage de la France, mais cet héritage, ce patrimoine, il est peut-être en voie, et c'est pas seulement le fait de l'État, en voie de disparition. Peut-être que, comme la langue,
l'histoire, de dissolution, d'éparpillement.
D'éparpillement, et donc on se dit, mais qu'arrive-t-il ? Que devient la France ? Que sera-t-elle dans 50 ans ? Aura-t-elle encore des références communes, une mémoire partagée ? Qu'en est-il de la mémoire avec ce qu'est aujourd'hui l'enseignement, avec l'intelligence artificielle ? Donc, c'est pour ça que le terme de touristique me dérange. Je pense, je parlerai, moi, plutôt de sentiments nostalgiques, et même tragique, il y a un tragique de l'identité nationale aujourd'hui, que le mot choisi par Pierre Nora ne semble pas prendre en compte, même si ça reste présent dans ce qu'il dit du tournant de la mémoire nationale. Régis Debray.
Là, on va vous traiter de réactionnaire, une fois de plus, mon cher Alain. Non pas que vous avez tort sur le fond. Moi, je suis, si vous voulez, plus distancié. D'abord, je considère que la nostalgie, ça fait la littérature. Donc, tout n'est pas perdu. Et deuxièmement, pourquoi ne pas admettre qu'il y a des pays qui meurent ? C'est-à-dire que, si vous voulez, si la France est née au traité de Verdun en 846, elle a tout de même fait 10 siècles d'existence. C'est formidable. Je vous trouve que votre pessimisme n'est peut-être pas fondé. Sur la nostalgie, oui, vous avez raison. Pour moi, c'est une qualité esthétique qui va donner campo, si vous voulez, à beaucoup de mémoire, à beaucoup d'évocations. Je veux dire, tout n'est pas fini pour les Chateaubriand et pour les Proust. Au contraire, ils peuvent renaître, étant donné que dans le présent, il n'y a plus grand-chose d'intéressant, si vous voulez. Mais je ne veux pas trop insister, parce qu'il y a d'abord la vie internationale, qui est très palpitante, comme vous savez, pour toutes sortes de raisons, les bonnes et les mauvaises, et qu'il faut admettre, je ne sais pas, que 10 siècles, c'est tout de même énorme.
Mais attendez, Régis Debray, 10 siècles, c'est énorme. Bon, alors, peut-être peut-on se résigner à cette métamorphose.
Pas se résigner, la prendre avec distance, humour, et je dirais, pas nostalgie, mais un certain sentiment de la profondeur de temps, si vous voulez. Et puis, vous n'oubliez pas que nous sommes en France dans le deuxième degré. C'est-à-dire que nous sommes pour répéter, récapituler, se remémorer, se redoubler, ressasser, bref, le préfixe « re » est partout. Nous sommes, la France est dans le deuxième degré, pour reprendre un mot anglais, « to kick upstairs ». Deuxième degré, donc on s'élève un peu, on n'est plus au sol dans la bagarre. Donc, au fond, nous vivons un pays où la seconde lecture et la deuxième fois se portent bien. Alors, ben voilà. Alors, vous ne devriez pas être contre, Alain. Vous êtes un homme de la deuxième fois, comme moi d'ailleurs. Donc, je vous trouve un peu trop ressentimental.
Ah non.
Ou, si vous voulez, un peu, enfin, pas résigné,
non,
gaiement, à l'état actuel des choses.
Ah, ça c'est sûr.
Dont
mais
on
c'est
peut pas rire, dont on peut être ironique ou même humoristique, mais je veux dire, voilà, le temps de la France est en partie fini, en tout cas de l'ancienne France,
oui,
celle qui nous intéressait.
D'accord. Alors quand vous parlez de distance et d'humour, je comprends très bien votre amitié avec Pierre Nora. C'était aussi un homme de distance et d'humour devant ce qui arrivait. Moi, j'essaie
d'être plus impliqué.
Oui, voilà, c'est ça. J'essaye d'être drôle dans la vie, mais j'ai un sentiment tragique de la vie aussi très fort. Et justement, j'ai envie de vous dire, bon, bah, peut-être la France va mourir, on peut emporter le deuil. Une certaine France. Et justement, celle d'après, qu'est-ce que vous dites de la post-France? Parce que vous avez des enfants, Régis Debray, moi j'en ai un, et je me dis, bah, dans quelle France va-t-il vieillir? Moi, bon, mon temps est passé, d'accord, mais est-ce qu'on peut se réjouir de ce que la France devient? Si précisément, les Français eux-mêmes parlent une autre langue que la langue française. Et que deviendra la littérature si, justement, avec cet idiome décharné qui fait la joie des réseaux sociaux?
Oui, c'est évident.
Régis Debray.
C'est évident que nous assistons d'abord au déclin de l'écrit.
Voilà, déjà. Et oui, donc là, nous revenons au débat.
Et
nous revenons à la fin du débat 2020, Pierre Nora.
Tout à fait. Et nous sommes, vous et moi, des hommes de l'écrit. Par ailleurs, c'est vrai qu'une page est tournée et que, disons que nous vivions dans un monde où la politique était présente et la culture, nous entrons dans un monde où c'est l'économie qui dirige les choses. L'économie, je dirais, le présentisme, l'obsession de l'actualité, si vous voulez. Bon, admettez que nous sommes les derniers des Mohicans. Eh ben, écoutez, je dirais qu'il y a pire, d'abord parce qu'on n'est pas mort, ce qui est déjà pas mal. enfin, on fait tout pour ne pas l'être, si vous voulez. Et puis, vous ne vous résignez pas suffisamment, et le mot résigner n'est pas bon, mais vous n'admettez pas finalement qu'il y a une histoire, que les nations et les langues ne sont pas éternelles, même si je crois que le français peut survivre à la France, ce qui est tout de même très important. Donc, nous ne serons pas totalement mis de côté. On sera en quelque sorte des témoins un peu vieux jeu, de l'ancien jeu, ben pourquoi pas.
Alors c'est pas seulement l'économie qui domine, là je vais faire mon Régis Debray, c'est le passage que vous avez très bien analysé de la graphosphère à la vidéosphère.
Oui.
Et la vidéosphère en effet a ses lois et qui s'imposent. Et effectivement, l'écrit est de plus en plus marginalisé, Régis Debray. Et de cela, on peut faire le constat, mais on a peu de raisons de se réjouir, ni peut-être a fortiori de se résigner.
Ah, qu'on ait peu de raisons de se réjouir, c'est évident.
Régis Debray.
Puisque le règne de l'image nous exclut en quelque sorte. À moins qu'on devienne, vous et moi, des grands acteurs, mais c'est un peu tard, si vous voulez.
Oui, des fois j'en rêve.
Ah, mais je comprends, parce que ce sont les seuls gens qui ont aujourd'hui une présence, une influence, puisqu'on est dans la vidéosphère, qui va se transformer, qui est en train de se transformer en numérosphère.
Bon. Oui, c'est ça. C'est la numérosphère, vous avez raison.
Et donc, bon, mais je vois pas pourquoi tout cela vous rend triste. Vous lisez pas assez les philosophes, c'est-à-dire qui nous enseignent un peu, sinon à être en haut, en tout cas à être en recul. Écoutez, nous ne sommes plus dans le coup, mais c'est pas terrible. La littérature est faite par des gens qui sont plus dans le coup.
Alors, il y a une phrase de Flaubert absolument magnifique, que Barthes commente admirablement dans son dernier cours, la préparation du roman. Je n'écris pas pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour tous les lecteurs qui se présenteront, tant que la langue vivra. Et Barthes se demande, et c'est il y a déjà longtemps, c'est 1979, si la langue est encore vivante, et c'est donc les lecteurs se présenteront. Donc c'est quand même une question qu'on peut se poser. Quant aux philosophes, j'en termine là-dessus, Régis Debray, ils nous apprennent aussi à avoir peur. Je pense à Günther Anders, L'obsolescence de l'homme. C'est un livre absolument extraordinaire. Et l'obsolescence de l'homme, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui va faire le travail des médecins, qui va faire le travail des avocats, etc., qui met l'homme un peu de côté. Donc c'est aussi ça que nous apprennent les philosophes, l'obsolescence de l'homme, et aussi les écrivains, quand ils se demandent si la langue va vivre encore, et ce que deviendra la littérature si la langue n'est plus. Régis Debray.
Écoutez, il y a un homme qui m'a fait à la fois comprendre et accepter notre temps, c'est Julien Gracq, qui a toujours pensé que ces livres étaient faits au mieux pour 10 000 lecteurs, et il pense qu'au fond, il y a toujours eu 10 000 lecteurs, indépendamment des prix littéraires, qui sont des petites bouffées, des bouffées de foule, mais qui tombent très vite. Donc, ce statut minoritaire, Gracq ne s'en plaignait pas, il l'avait accepté. Les best-sellers, c'est pas pour nous. Enfin, c'est peut-être pour vous, mais c'est pas pour moi. Mais je ne veux pas vous inculper. Mais
rassurez-vous, c'est plus pour moi non plus.
On peut avoir par accident
un
best-seller si on rencontre la conjoncture. Mais en gros, il faut savoir, c'était la thèse de Gracq, qu'il n'y a jamais eu plus que 10 000 lecteurs, que ce soit au siècle passé ou aujourd'hui. Voilà. Vous n'acceptez pas d'être minoritaire. C'est
non.
Ça, c'est. Ben oui, nous avons perdu la majorité, mon cher Alain.
Je n'accepte pas d'être mort de mon vivant.
Ah, oui, vous avez raison, mais d'abord, vous n'êtes pas mort. Et deuxièmement, les morts vivants ont toujours eu de l'avenir.
Très bien. Merci, Régis Debray. Alors, je terminerai quand même par une citation de Pierre Nora dans Une étrange obstination. Il il rencontre sa rencontre avec Aragon dans l'escalier de Gallimard, en costume blanc, accompagné de Jean Rista. Il voit Pianora et lui dit « Monsieur note de bas de page, je présume ». Sauf que, précisément, Aragon et Pianora appartenaient au même monde. Et que c'est ce même monde qui peut être aujourd'hui en péril.
Nous sommes tout à fait d'accord.
Ouais, très bien.
Finissons sur un trait d'ironie.
Voilà. Merci Régis Debray pour cette évocation passionnante. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Laurent César. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'aide active à mourir ». Mes invités seront Philippe Juvin et Denis Labelle. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.